Car la question du développement durable ne concerne pas que notre planète, c'est aussi un vrai sujet de préoccupation pour l'espace qui serait en train de devenir une vraie poubelle. Satellites et débris en tout genre, la pollution spatiale est loin d'être anecdotique au point qu'il faut imaginer justement des solutions pour la traiter. Lundi dernier, l'Agence spatiale européenne a dû modifier l'orbite d'un satellite d'observation de la Terre pour éviter une collision avec l'un des 60 satellites d'Elon Musk, le patron de SpaceX. Comment gérer cette question et quelles sont les solutions pour faire le ménage dans l'espace? On en parle avec mon invité Christophe Bonnel, qui est expert en débris spatiaux. Et vous pouvez même lui poser toutes vos questions et qui sait, peut-être même nous donner vos idées pour faire nettoyer l'espace. 01 45 24 7000, franceinter.fr et le mot-clé, la TAC. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour
Camille,
à tous.
Camille, passe au vert à 13h40.
Et réhabilitons les insectes, s'il vous plaît.
Oui, ils en ont besoin. Vos solutions pour la planète dans la deuxième demi-heure. Avec aujourd'hui Gaël, un auditeur qui a lancé un projet pour nous aider à nous préparer aux catastrophes naturelles. Dernier reportage en Guyane avec Célia Kiret autour de la pêche illégale. Et puis l'invité de découverte, Julien Vidal, nous présentera un livre, Ça commence par moi. Il a testé pendant un an chaque jour une nouvelle action éco-citoyenne. Voilà pour le sommaire complet de cette Terre au carré, réalisé par Valérie Ayestaraï.
Mathieu Vidal, la Terre au carré. Sur France Inter.
Bonjour Christophe Bonnel.
Bonjour.
Vous êtes expert en débris spatiaux au CNES et vous présidez la commission en charge des débris de l'Académie internationale d'astronautique. Ça fait longtemps que vous travaillez sur les débris ?
Malheureusement, oui, pas mal. J'ai commencé en 87. Maintenant, j'ai coutume de dire que je suis le plus vieux débris en activité en Europe.
Oh, mais non. Voilà. Alors, mais pas seulement. Hein.
Et puis en 87, on se disait bien sûr que c'était un petit problème qui allait être résolu très rapidement. Et non, on est toujours là.
Ouais. Et c'est même de pire en pire, on peut le dire, non?
C'est de pire en pire. Oui, la situation ne s'est jamais améliorée depuis Sputnik, 57. Par contre, on a des bonnes raisons d'espérer que demain sera mieux. Donc on œuvre là-dessus beaucoup au niveau réglementation, les nouvelles idées au point de vue du futur.
Est-ce que vous avez inventé l'aspirateur du futur ou pas?
Inventer. Ouais. Alors il y a pas mal de techniques. Il y a pas mal de techniques qui sont proposées de par le monde. Il y a au moins, je sais pas, une quarantaine d'idées différentes. Ça va du très farfelu. Récemment, il y a un Américain qui nous a proposé de mettre en orbite une boule de chewing-gum de 1 km de diamètre. Alors nous, on est polis, on dit jamais non, donc on dit oui, ah oui. Et comment le fait-on? Et là, il nous a répondu: vous savez, j'ai eu l'idée, c'est à vous de la mettre en œuvre.
Bien sûr. Il faut mâcher beaucoup. Vous avez déposé un brevet quand même. Vous avez une idée. Avec le prix Nobel de physique.
Absolument. Il a eu le prix Nobel après l'idée. Ouais. Mais on avait, avec Gérard Mourou, qui est un prof à Polytechnique, expert absolu en laser. Et son laser peut être utilisé à différentes activités, notamment au niveau des débris. Donc, on peut se servir de son laser, par exemple, pour mesurer de façon très, très fine la position des débris en orbite.
Aujourd'hui, c'est pas si mal, ouais.
Aujourd'hui, on a un problème. On sait où sont les très gros objets, typiquement 10 cm ou plus. Mais on sait où ils sont un kilomètre près. Quand vous avez un objet, vous savez...
C'est pas très précis,
vous avez un objet,
hein,
qui fait un mètre, un satellite qui fait un mètre, et vous savez qu'il est là à plus ou moins un kilomètre près, c'est pas génial.
Ouais.
Et donc, avec Gérard, on s'est dit, on pourrait utiliser le laser de manière à faire quelque chose d'un ranging, un télémètre laser,
Mais ça servirait à quoi, alors, exactement? Et à pulvériser les débris?
Non, là, serait la première version sur un laser à très faible intensité, qui permettrait juste de déterminer avec une très grande précision la position des objets. Au lieu d'avoir un kilomètre d'incertitude, on pourrait peut-être tomber à 100 mètres ou 10 mètres.
C'est bien, mais ensuite, il faut s'en débarrasser.
Et alors après, l'idée d'après, c'est d'augmenter progressivement la puissance du laser. Ça, c'est vraiment le laser de Gérard, est quelque chose de très modulaire et qui peut grossir d'une façon considérable. Et là, après, on peut tirer sur les lasers, sur les débris. C'est un petit peu compliqué, mais on arrive à vaporiser légèrement la surface d'un débris. Et cette vaporisation, on le chauffe localement, très fortement. C'est des lasers pulsés, avec des pulses très très courts, mais très très énergétiques. Et donc la petite vaporisation à la surface du débris crée un panache qui agit comme un moteur de fusée, et donc qui freine le débris. Et donc vous recommencez un million de fois, et hop, le débris redescend. Quand je dis un million de fois, c'est on tire 50 fois par seconde.
Mais il redescend où, sur Terre?
Oui, et donc on le fait redescendre progressivement, notamment jusqu'à ce qu'il commence à toucher les hautes couches de l'atmosphère, et là, il brûle dans l'atmosphère.
Il va se désintégrer, naturellement.
Hein. Vous évoquiez Spoutnik, là, tout à l'heure. Est-ce qu'il y a encore des bouts de Spoutnik dans l'espace?
Alors, Spoutnik, non. Spoutnik est rentré assez vite. Spoutnik est rentré 92 jours après le 4 octobre 57.
Voilà, quand vous dites rentré, c'est quoi? Dans l'atmosphère?
Dans l'atmosphère, il a brûlé dans l'atmosphère. Par contre, je crois que les tout premiers exploreurs américains, donc qui étaient lancés en début 58, eux, ils y sont encore.
Ouais.
Et nous, notre Astérix 65, on le voit encore. Ouais. Il est là-haut.
Ouais, bah, sauf que tout ça, ce sont des débris.
Absolument.
C'est de la pollution.
C'est de la pollution. Il faut bien comprendre qu'à cette époque-là, l'espace est vide. Et encore maintenant, hein, vous savez, l'espace est bien, bien vide. Hein. Donc, faut vraiment avoir de la malchance pour avoir une collision. Hein.
Ouais.
Mais donc, la vraie prise de conscience qu'il y avait peut-être quelque chose là-haut, c'est pas avant 1976. Et un collègue américain qui s'appelle Donald Kessler, qui était le tout premier directeur, d'ailleurs fondateur de l'équipe débris de la NASA, qui a dit en 76, oh mais tiens, mais il faudrait quand même qu'on fasse gaffe un peu. Puis il a théorisé ça en 91, ce qui est devenu le syndrome de Kessler, c'est-à-dire la remultiplication des débris par collision mutuelle. Enfin, le film Gravity, si vous voulez. Donc ça, en 91. Et là, les gens ont commencé à réagir qu'effectivement, il fallait faire quelque chose. En 91, la NASA a eu sa première réglementation en 95, les Japonais en 97 et les Français en étaient les troisièmes en 98-99 avec notre standard. Et après, bon, ces standards ont fait des petits. Hein, en 2002, au niveau de la communauté internationale, un groupe très important qui s'appelle IADC, Interagency Debris Coordination Committee, qui est le club des pollueurs. Voilà, puis après, on a eu un standard ISO, International Standardization Organization, en 2010. Donc, si vous voulez, là, on est vraiment en train d'installer toute la réglementation.
Christophe Bonnal, que s'est-il passé lundi exactement dans le ciel entre un satellite de l'Agence spatiale européenne et un satellite d'Elon Musk?
Mais il s'est rien passé, heureusement.
Ouais.
Il aurait pu se passer une collision. Alors là, une collision entre deux objets de cette taille-là. Donc, brièvement, c'était un gros satellite, un très très beau LIDAR de l'Agence spatiale européenne qui fait une tonne 3, qui s'appelle Eolus, avec un laser précisément.
Ouais. Les LIDAR, c'est ce qui permet par exemple aux archéologues de pouvoir ratisser un terrain pour essayer d'avoir
tout à
une
fait.
Cartographie.
C'est un genre de nappe laser, enfin, bon, les experts m'excuseront de l'approximation. Hein, mais donc c'est un satellite qui vise l'atmosphère et qui, grâce au LIDAR, permet de suivre les mouvements de l'atmosphère et donc de cartographier les vents. C'est un satellite absolument unique, remarquable au point de vue scientifique, hein, et donc qui s'est vu menacé par un risque de collision par Starlink 44, donc un satellite beaucoup plus petit, hein, 227 kilos, de la constellation Starlink de SpaceX.
Donc d'Elon Musk.
D'Elon Musk.
Parce que Musk a envoyé beaucoup de satellites, là, tout d'un coup. Hein.
Alors, pour le moment, Starlink, normalement, pourrait monter à, alors, suivant les versions, 2000, 7000, ça peut aller jusqu'à 12 000 satellites.
Ouais.
Mais donc, la première grappe a été envoyée, la première grappe de 60 satellites, a été envoyée assez récemment, hein, c'était en mai 2019. Bon, et sur les 60 satellites, c'est vraiment des satellites un peu expérimentaux, de validation. Ça marche. Voilà. Et là-dedans, il y en a 6 qui, au lieu de remonter, descendent. Alors Musk a expliqué qu'il y en a 3 qui sont en panne, mais il y en a au moins 2 qui redescendent volontairement de manière à valider les process de fin de vie de ces satellites. Et c'est l'un de ceux-là qui a posé un problème à Eolus.
C'était la première fois qu'une telle manœuvre était nécessaire pour éviter la collision ou pas?
Alors non, ça arrive très fréquemment, malheureusement. Par contre, ce qui est rare, c'est d'avoir une manœuvre à faire entre deux objets manœuvrants, deux objets vivants. Si vous voulez, très rapidement, il y a un nombre extrêmement grand de débris au-dessus de nos têtes. Hein. Il y a typiquement 34 000 objets de la taille du poing, hein, 10 cm ou plus. Sur ces 34 000, on en connaît bien 20 000 qu'on catalogue, hein, où là on a leur petit nom, leur orbite, on sait dire où ils seront demain. Et sur ces 20 000, il n'y a que 1500 qui sont manœuvrants. Donc la probabilité d'avoir un risque de collision entre un manœuvrant et un manœuvrant est très faible. D'habitude, on a un risque de collision entre un manœuvrant et un débris.
On parle donc avec vous pollution de l'espace et vous allez répondre aux questions et aux messages des auditeurs. Christophe Bonnal, 0145 24 7000, franceinter.fr et bien sûr le hashtag, le mot-clé, l'attaque.
France Inter. La Terre au carré.
Camille passe au vert, les insectes sont nos amis et vous avez tenté, Camille, de surmonter votre léger manque d'amour pour les insectes.
Oui, c'est en lisant un article du Monde il y a quelques jours, pourquoi l'empathie pour les insectes est un art difficile, que je me suis moi aussi rendue à l'évidence. Si je pense petite bestiole, je pense effectivement plus dégage que « Oh mais que tu es mignonne, petite punaise !» en bonne urbaine ayant oublié toutes ses racines pourtant rurales. Et comme les insectes eux aussi disparaissent, 80% perdus en moins de 30 ans en Europe, d'après l'une des dernières études sur le sujet, je me suis dit, c'est plus possible. Alors me voilà partie au temple du petit peuple invisible, j'ai nommé le Muséum National d'Histoire Naturelle et je suis allée voir deux chercheurs passionnés de nos pires cauchemars, Mathieu, le frelon et la blatte. Allez, venez. Alors nous voici dans la plus grande collection d'insectes au monde, avec Quentin Rome, entomologiste spécialiste des guêpes dites sociales.
Je vous montre les frelons. Le sujet, c'était des insectes que les gens n'aiment pas. Donc je vous montre des frelons. J'ai commencé par celui qui me prend le plus de temps, c'est le frelon asiatique. Vespa veillutina nigatorax. Son vrai nom, c'est le frelon à pattes jaunes. Après, je peux vous montrer le plus gros frelon du monde, si vous voulez.
Ah bah,
si
grave.
Si vous n'avez pas peur.
Si, j'ai peur, mais... Ouh là là.
Ça, c'est le frelon géant d'Asie. Et celui-là, c'est le seul qui a un venin dangereux pour l'homme. C'est-à-dire que les autres, c'est dangereux quand on est allergique.
Alors, il reste pour l'instant en Asie du Sud-Est, ce frelon de presque 6 cm, hein, je le précise, ça fait presque la taille de mon index. Ce qu'on voit, nous, en Europe, voler et dans nos jardins, il faut pas en avoir peur.
Malgré leur réputation, ils sont plutôt cool. C'est des insectes qui préviennent avant d'attaquer, alors ils volent autour en faisant du bruit. Donc ça peut faire peur, mais c'est le but, c'est de faire peur et qu'on s'en aille. Et si on insiste, là, ils vont attaquer.
C'est une incompréhension entre les frelons et nous.
Il y a une incompréhension aussi.
Et le frelon est non seulement cool, donc, mais surtout utile à l'environnement avec ses amis les guêpes.
C'est des insectes prédateurs. Donc c'est un insecte qui permet de réguler d'autres espèces d'insectes et qui ont en général tendance à se focaliser sur les espèces qui pullulent.
Sans oublier le rôle de pollinisateur. Alors, je serais bien restée plus longtemps au milieu des bocaux remplis de frelons. Je commençais à m'y faire, mais j'avais rendez-vous avec une autre espèce mal aimée à l'étage au-dessus.
Ici, vous avez une blatte qui vit dans le sous-bois des forêts de l'Inde.
La blatte, appelée aussi cancrelat ou cafard, que Philippe Grandcola étudie depuis plus de 30 ans au CNRS. 4000 espèces connues, mais il y en aurait 5 fois plus.
Alors celle-ci, par exemple, l'espèce la plus commune, elle s'appelle Terea petiveriana. Celle-ci s'appelle Trichoblatta magnifica. Alors elle s'appelle Thanatophyllum acinetum, Gonfadorina maxima. Voilà, Blaberus giganteus, vous voyez encore un nom qui dit bien ce qu'il veut dire.
Intarissable, bien sûr, et aussi passionnant. Non que passionné.
Ce qui me passionne vraiment, c'est la biodiversité. Et les blattes en sont un excellent exemple. Les blattes sont fascinantes parce qu'elles sont omniprésentes dans les milieux naturels. Vous avez des espèces qui vivent en groupe et qui montrent des comportements extraordinaires. Elles ont une capacité d'adaptation qui est considérable. Leurs couleurs, la diversité des formes, des couleurs métalliques, des couleurs vives, ce sont des espèces en plus qui sont bien situées dans le milieu naturel et qui contribuent au fonctionnement des écosystèmes.
On n'aurait jamais pensé entendre parler blattes comme ça. Hein. Alors, par contre, ce n'est pas des blattes domestiques qu'il parle, c'est cafards qui squattent parfois nos cuisines. Après être passés par le vide ordure, là, on peut y aller.
Sans pour autant en faire une phobie ou déclencher une guerre nucléaire, il est préférable de ne pas avoir de blattes dans son habitat.
Attention, cela dit, l'insecticide peut vous faire plus de mal. Et si vous croyez qu'elle résiste à tout, écoutez bien.
Il y a un bruit qui court et qui dit que les blattes résistent à la radioactivité, que ce seraient les seuls insectes qui résisteraient aux explosions atomiques, ce qui est évidemment complètement faux. Tous les insectes résistent un peu mieux à la radioactivité, aux radiations que l'espèce humaine, mais les blattes pas plus que les autres, et les blattes domestiques pas plus que les autres.
Au revoir donc la légende urbaine, des blattes extraordinaires et des frelons cool. Comme le chantait, attention référence, les inconnus, les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi, en tout cas au moins les laisser tranquilles. Et c'était il y a 30 ans, juste avant l'hécatombe donc.
Ça vous a réconcilié avec les insectes, Camille, ou pas cette petite visite?
Ah ben voilà. Je dis pas que je serais prête à aller directement vers un frelon, mais j'aurais peut-être moins peur.
Bon, Camille passe au vert, et c'est bien sûr à réécouter sur franceinter.fr.
Christophe Bonnal, on envoie des animaux dans l'espace depuis des années. Est-ce que des insectes se trouvent aujourd'hui dans l'espace? Est-ce que c'est possible, sinon, qu'ils arrivent à s'incruster dans les
un moustique guyanais, par exemple, d'un décollage.
Ce qui se fait beaucoup, souvent, c'est des expériences dans l'ISS, la Station Internationale, où là, réellement, on peut étudier le comportement des animaux, vérifier leur aptitude.
Y compris des insectes.
Hein. Je sais qu'il y a eu, par exemple, des expériences de manière à montrer comment des araignées pouvaient tisser des toiles.
Oui, mais l'araignée n'est pas un insecte.
insecte. Attention. L'araignée n'est pas un insecte.
Quand je disais ça, je me disais que j'allais me faire engueuler par mon fils. Voilà, donc oui. Mais non, mais sinon, il y a... alors, je suis pas...
Et est-ce que ça arrive qu'ils rentrent comme ça, vu que c'est tout petit parfois, qu'ils arrivent à s'incruster dans un lanceur
C'est un problème qu'on a tout à fait en Guyane.
Un moustique dans l'ISS.
En Guyane, on a des... Alors, c'est tout à fait autre chose. Donc, au sol, on a souvent des petites bêtes qui s'appellent des mouches maçonnes et qui adorent trouver des petits trous et qui s'y créent un petit nid bien solide et qui bouche des trous. Donc ça, c'est une activité significative qu'on a, qui est de protéger tous les trous sur un lanceur. Alors on met des grilles, on met des trucs, on met des procédures de manière à éviter que les mouches maçonnes viennent faire leur nid dans Ariane.
Christophe Bonnal, expert en déchets spatiaux, est notre invité. Et vous avez des questions pour lui au 01 45 24 7000 et déjà par mail sur franceinter.fr.
Auront perdu beaucoup de temps, égarés dans des paysages qui ne nous allaient pas vraiment, auront goûté en solitaire aux saveurs de tant de saisons, sans l'avoir prévu, par temps clair, sur beau rivage nous échouerons. Avant qu'on voie tes mondes meilleurs, à force de marche entravée, dans le vin déroulé des heures, avons révoqué la douceur sur des chemins de roses enfouies. Bientôt ne resterait d'ailleurs qu'ici. Nous échouerons à beau rivage, l'endroit parfait qui nous attend. Aurons perdu beaucoup de temps par d'autres lieux pris en otage. Aurons connu en solitaire les teintes de tant d'horizons, sans l'avoir prévu, par temps clair, sur beau rivage nous échouerons. Nous sommes heurtés à des barrages, à des croix tout juste dressées, à travers l'un des marécages. Sans chemin avons repoussé, essuyant des larmes d'orage, au fond de vallées dépeuplées. Nous échouerons à beau rivage, l'endroit parfait qui nous attend, par-delà lande et marécage, avons perdu beaucoup de temps, avons écumé toutes les terres, vendangé toutes les illusions, sans l'avoir prévu, par temps clair, sur beau rivage.
C'était Dominique A.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Observatoire à tour de contrôle, correction 0098.
Allô, l'observatoire, la fusée a-t-elle explosé?
Explosé?
Mais non, au contraire, elle s'éloigne de plus en plus.
Ah, je vois ce que c'est, deux fils déconnectés. Ce sera vite réparé, et voilà. Allons-y!
Observatoire à tour de contrôle. La XFLR 6 a fait explosion. Plus rien à observer.
Objectif Lune, donc, dans la Terre au carré avec notre invité Christophe Bonnal. Pourquoi?
Vous
n'aimez
pas Tintin, on dirait.
Joker.
Mais non, mais dites tout ce que vous avez envie de dire. Non, Christophe Bonnal. Objectif Lune, ça vous rappelle les mauvais souvenirs d'enfant?
Tout à fait. Oh, bah, allez. Objectif Lune a été énormément pompé sur le film Destination Moon qui datait de 4 ans avant. Et d'accord. Où il n'y avait pas eu de reconnaissance d'idées. Vous avez tout là-dedans.
Bien. En tout cas, on vous pose plein de questions sur les débris et la pollution spatiale au 01 45 24 7000. Clément est en ligne pour commencer. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue Clément, on vous écoute.
Eh bien, j'ai une question pour votre invité. Quand il y a un lancement de fusée, on apprend, en tout cas en ce qui concerne SpaceX, ce qu'il devient du premier étage de la fusée, qui bien souvent est récupéré, se pose soit sur un bateau, soit à côté du site de décollage. Mais le deuxième étage de la fusée, on n'en parle jamais, ni en ce qui concerne SpaceX, ni en ce qui concerne Ariane. Et je voulais savoir donc ce qu'il arrivait de ces trucs-là. Est-ce qu'il est... Ils les mettent toujours dans des orbites poubelles ou est-ce qu'ils sont désorbités?
Alors, voilà. Christophe Bonal vous répond. Voilà, Clément.
Très bonne question, Clément. Donc, il y a vraiment trois types d'étages. Il y a les étages qu'on arrive à récupérer pour réutiliser. Ça, c'est ce que fait SpaceX et c'est ce sur quoi on travaille actuellement au CNES pour les prochaines générations. Après, il y a les étages qu'on ne récupère pas, par exemple parce qu'ils ont déjà trop d'énergie et que quand ils rentrent dans l'atmosphère, ils brûlent. C'est le cas, par exemple, pour l'étage principal d'Ariane 5, qui est un très gros étage qui rentre à très grande vitesse et lui, on ne pourrait pas le récupérer. Donc lui, il retombe dans l'Atlantique en tout petits morceaux, et donc là où ça coule. Et enfin, il y a les étages supérieurs, où là, l'étage supérieur, donc, il va en orbite avec sa charge utile. Il sépare la charge utile, le satellite, sur l'orbite finale. Puis après, dans la majorité des cas, on lui demande de se désorbiter pour rentrer, par exemple, dans le sud du Pacifique. Alors, certains ne le font pas encore et restent là-haut et deviennent des débris. Mais de plus en plus, la pratique est de désorbiter les étages d'état supérieur.
Alors Edouard, justement, une question sur franceinter.fr, il aimerait savoir à qui appartiennent les déchets spatiaux, est-ce à tout le monde ou à celui qui a lancé ?
C'est absolument à celui qui a lancé, c'est-à-dire tant que les débris sont des très gros objets, par exemple un vieux satellite ou un vieil étage supérieur de fusée, vous savez très bien qui l'a lancé, qui c'est, vous connaissez le petit nom du débris, et donc la responsabilité est complète. Par contre, si par hasard il est impacté et que ça devient une myriade de débris plus petits, bon là c'est plus compliqué.
Élise nous demande par mail, qu'est-ce qui compose les débris spatiaux ?
Alors, c'est essentiellement les matériaux dont on sert pour faire des satellites ou des fusées. Essentiellement de l'aluminium, du carbone, et puis après un peu différents types d'autres matériaux, mais fondamentalement aluminium et carbone.
Des boulons, des clés à molette
hein. Oui, alors des boulons. généralement, on essaie de souder plutôt que boulonner. Ouais. Mais
voilà, Jacques est en ligne au 01 45 24 7000. Bonjour.
Oui, bonjour, merci pour vos émissions et pour le fait qu'Inter s'intéresse si bien à l'environnement.
Merci Jacques.
Voilà, on voit qu'on a bien pollué les océans, on continue de le faire. On n'a pas été capable de mettre en place une politique de régulation des pollutions. Et on est en train de faire exactement la même chose dans l'espace. Donc, y a-t-il une autorité de régulation ? Y a-t-il une agence internationale à laquelle on peut demander l'autorisation d'émettre ? Monsieur Musk avec Tesla a envoyé un véhicule dans l'espace, il va envoyer des milliers de satellites. Ben finalement, en dehors de l'autorisation donnée par les États émetteurs, là où les lancements ont lieu, y a-t-il un système de régulation internationale ? Je pense qu'il faudrait s'en préoccuper.
Merci Jacques, ouais, très bonne question. Pour le moment, non, il n'y a pas. C'est-à-dire, en caricaturant vraiment à l'extrême, si vous lancez ce que vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez.
Incroyable.
La réglementation aujourd'hui porte effectivement sur le droit d'émettre. Donc là, c'est les émissions radio fondamentalement pour éviter de brouiller le voisin. Et puis, dans certains pays, vraiment plus avancé. Là, il y a réellement un dossier complet de conformité à respecter de manière à avoir le droit de lancer. C'est le cas de la France. On a été le premier pays à avoir une loi spatiale, et où là, pour avoir le droit de lancer depuis la Guyane, par exemple, ou pour avoir le droit de fabriquer un satellite en France, vous devez vous conformer strictement à toute cette réglementation.
Ouais, mais enfin, et il va falloir se mettre autour d'une table quand même pour faire quelque chose, un traité international.
On passe notre temps là-dessus, c'est vraiment l'une de nos priorités majeures. Et attention, faut voir, on a des textes. Le problème après, c'est de les faire appliquer. Vous avez une limitation à 90 devant votre maison, mais vous la respectez pas le soir quand vous rentrez.
Et par rapport à ce que disait Jacques, est-ce que c'est vraiment visuellement encombré, embouteillé ou pas encore?
Alors, c'est une très bonne image. Et il faut imaginer un parallélépipède de 100 km. Sur 100 km, sur 1000 km. Donc ça fait une belle boîte. Là-dedans, vous avez un objet. Un objet de la taille du poids en
plus.
Donc
c'est pas si encombré.
L'espace est infiniment vide.
Oui.
Il y a rien là-haut. Il y a juste quelques petits shrapnels, mais qui nous posent deux problèmes. C'est primo, quand ils sont là-haut, ils y sont pour longtemps. Un objet à 1000 km d'altitude et là-haut pour 1000 ans. Deuxième truc, ils sont en orbite, donc ils vont à une vitesse orbitale, c'est-à-dire 30 000 km à l'heure. Donc pendant 1000 ans, ils se trimballent à 30 000 km à l'heure, ce qui fait qu'il y a des risques de collision intégrés dans le temps qui peuvent devenir élevés.
Une question de Guy sur l'application de France Inter. Est-il possible d'éviter de polluer l'espace et quid de la pollution de l'atmosphère lors justement de la désintégration des déchets spatiaux? Est-ce qu'il y a des études à ce sujet?
Il y a énormément d'études. On a toutes les études d'impact à chaque fois qu'on fait ça. Donc, je réponds d'abord à la deuxième. Au niveau de l'atmosphère, l'impact est totalement négligeable.
Ouais, vraiment parce que ça brûle justement, ouais, il y a une combustion.
Surtout, on a très 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 peu de choses. Hein. Il faut vraiment imaginer. Aujourd'hui, on a 7000 tonnes, 8000 tonnes dans l'espace. Okay. Même si on faisait rentrer ces 8000 tonnes, c'est quelque chose qui est complètement négligeable par rapport à, je sais pas, le premier pétrolier qui coule ou le porte-conteneur de 200 000 tonnes qui coule. Bon, c'est incomparable. Il y a absolument pas c'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur. Hein. Donc, il n'y a pas de problème de pollution terrestre associé.
Alors, vous parliez à l'instant des risques de collision. Quels seraient les dégâts d'une collision? Ça fait quoi? Ça fait des petits bouts dans tous les sens?
Alors, malheureusement, les collisions sont associées à des énergies cinétiques très, très élevées. Hein. Je rappelle juste l'énergie cinétique, c'est le carré de la vitesse. Hein. Par deux, multiplié par la masse. Et ce qui fait qu'on a des énergies absolument phénoménales. Mmh. Là, par exemple, j'ai regardé s'il y avait eu la collision entre Starlink et Eolus, on aurait eu une énergie qui était de plus 24 gigajoules. Alors, ça veut dire quoi, 24 gigajoules? C'est 6 tonnes de TNT. Mmh. Donc, vous imaginez, ça fait déjà une belle explosion. Donc là, des collisions de ce genre-là, ça régénère des milliers de nouveaux débris. Et c'est ça le problème.
Patrick est en ligne au standard de France Inter. Bonjour, Patrick.
Oui, bonjour.
Christophe Bonal vous écoute.
Je voudrais savoir si parmi les débris spatiaux, il y a des débris radioactifs. Et si tel est le cas, que deviennent-ils lorsqu'ils retombent dans notre atmosphère? Je suppose qu'ils se vaporisent et qu'ils viennent polluer notre air et notre terre.
Oui, très bonne question, Patrick. Alors, heureusement, les systèmes radioactifs sont interdits en orbite depuis la convention de, alors est-ce que c'était 72 ou 76? 76, je crois. Et donc, on n'a pas le droit de lancer des objets radioactifs là-haut. Alors, il en reste quelques-uns des périodes initiales, donc avant 76, notamment des anciens satellites RORSAT soviétiques, mais dans lesquels les réacteurs sont très petits et ont été placés sur des orbites très très stable, beaucoup plus haute. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de problème connu ou publié.
Hein. Alors toujours sur la question nucléaire, Joe nous dit, vu qu'on ne sait rien faire et qu'on ne sait pas quoi en faire sur Terre, pourquoi est-ce qu'on n'envoie pas les déchets nucléaires loin dans l'espace, genre sur Mars, plutôt que de chercher à envoyer des humains?
Et c'est une très bonne idée à laquelle on
travaille. Ah bon, vous trouvez,
à laquelle on travaille beaucoup. Alors évidemment,
vous trouvez qu'elle est polluée ailleurs, c'est une bonne idée.
C'est pas pour aller sur Mars. Donc les premières idées qui avaient été étudiées, c'est d'envoyer nos déchets nucléaires sur le Soleil, retour au Soleil.
Ah bah là, oui.
Voilà, mais par contre là, c'est vraiment trop énergétique. Alors après, on a imaginé de les placer quelque part en orbite entre Mercure et Vénus. Une orbite très très stable, mais là on ne savait pas démontrer qu'il n'y aurait pas un jour une comète qui passerait à proximité, etc. Donc les dernières idées, c'est d'aller les poser sur un astéroïde qui servirait finalement de zone de stockage, qu'on maîtriserait très bien, où on saurait exactement où il est, et surtout qui permettrait d'aller les rechercher un jour si nos petits-enfants sont plus intelligents que nous et savent de quoi,
Christophe
quoi
Bonal,
faire.
Très rapidement, comment on devient, vous êtes passionnant, comment on devient un expert des débris spatiaux?
Attendez,
pour les jeunes notamment.
Attendez, c'est un beau sujet. Sinon, vous ne m'auriez pas invité. Donc, c'est un beau sujet, c'est formidable. C'est un sujet qui
Mais
est
comment
très...
on fait s'il y a des jeunes qui nous écoutent?
C'est
difficile.
C'est du spatial. Hein. Et puis après, c'est vraiment une spécialisation au niveau du spatial. C'est vous vous intéresser au sujet. Vous commencez à proposer. Là, dans le cas particulier, c'est vraiment. J'avais commencé en 87 à étudier quelles seraient les règles qu'il serait nécessaire d'appliquer aux nouveaux lanceurs. Hein. Donc. Et puis après, quand on a mis le petit doigt là-dedans, on le lâche pas.
Merci beaucoup en tout cas, Christophe Bonal, d'être venu nous en parler au micro de la Terre au carré. Merci à vous. Juste après les informations, vos solutions pour la planète, avec un auditeur qui s'inquiète beaucoup des catastrophes naturelles et qui a justement mis au point un projet pour nous y préparer. Bon après-midi à l'écoute de France Inter, il est tout juste 14h.
France Inter. La Terre au carré.
Et au menu de cette deuxième demi-heure, le dernier reportage de Célia Kiré en Guyane avec les militaires français qui luttent contre la pêche illégale. Et puis dans la dernière partie de cette émission, Julien Vidal vient nous parler de l'expérience qu'il a menée pendant un an en testant chaque jour une nouvelle action éco-citoyenne. Il va nous donner plein d'idées,
Camille.
Ouais. Mais pour le moment, vos solutions pour la planète, et nous sommes en ligne avec vous, Gaëlle. Bonjour.
Bonjour.
Gaëlle, vous êtes un hacker éthique et radioamateur et vous avez fondé une association HEND qui veut hacker against natural disaster et qui a pour objectif, on va le dire en français, d'aider toutes les personnes à se préparer aux catastrophes naturelles. Alors, c'est quoi exactement un hacker éthique?
Alors, on est majoritairement bien intentionné en tant que hacker, mais on voulait souligner le fait que notre rôle, comme le dit Kyrané Lazari, c'est un peu d'être le système immunitaire d'Internet et par extension des villes. Notre rôle, c'est de comprendre comment fonctionnent ces systèmes d'information complexes, de les détourner de leur usage premier, de les rendre plus sûrs, moins vulnérables évidemment aux attaques malveillantes, mais aussi aux effets du réchauffement climatique et des catastrophes naturelles.
Alors vous travaillez justement sur le problème des catastrophes naturelles. Qu'est-ce qui vous a sensibilisé d'abord à cette question ?
Alors, je suis né en 1980 en Guadeloupe et j'ai malheureusement été victime, comme les résidents des Bahamas ces derniers jours, d'un ouragan, l'ouragan Hugo, en 1989. Il m'a fallu, comme certains de ces habitants des Bahamas, quitter avec mes parents à 9 ans notre maison familiale pour aller aider nos voisins et quitter notre maison aussi qui était partiellement détruite. C'est cette expérience-là, enfant, qui m'a poussé à faire des études de météorologie, à concevoir des capteurs et arriver ici en Europe, dans l'Hexagone en 2001, mais à appliquer en fait tout mon savoir, toutes mes connaissances scientifiques et techniques à la prévention de ces catastrophes.
Donc de ce souvenir traumatique, vous en avez fait quelque chose aujourd'hui qui vous anime, parce que vous traversez quasiment le monde entier pour aller justement aider toutes les personnes à se préparer aux catastrophes naturelles. Vous serez d'ailleurs demain, je crois, en Nouvelle-Calédonie. Alors, qu'est-ce que propose votre association HEND exactement, que vous avez fondée en 2016?
Tout à fait. Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment aider les gens sur leur territoire. Il y a beaucoup d'associations qui œuvrent déjà sur ces aspects de prévention et d'urgence. On a des radioamateurs, donc des personnes qui ont reçu en fait de la part de leurs États, donc de l'État français pour les Français, une autorisation d'émettre sur des bandes qui leur sont réservées et qui ont un rôle à jouer au rétablissement des communications et à fournir des réseaux radio supplétifs quand la téléphonie mobile, les radios FM ou les télévisions sont tombées. C'est ce qui a été le cas, par exemple, à Saint-Martin en 2017. Notre rôle aussi, c'est de participer à des exercices internationaux. Donc le dernier en date, c'est celui du 14 mars 2019, qui s'appelle Caribou Wave, qui est un exercice international de tsunami où des centaines de milliers de Caribéens se préparent à faire face à l'arrivée d'une vague. Et pour ça, pour se préparer, ces radioamateurs, ces cartographes amateurs aussi parfois, qui appartiennent à la communauté OpenStreetMap, qui est un projet de cartographie collaborative, apprennent à cartographier, apprennent à communiquer sur leur territoire, apprennent aussi à utiliser correctement les réseaux sociaux qui peuvent être de formidables vecteurs d'information, de prévention, mais aussi générer le chaos. Donc éviter en fait ces mouvements de panique en utilisant et en développant cette nouvelle discipline que sont les médias sociaux en gestion d'urgence.
Gaëlle, ce que vous dites quelque part, c'est que les moyens déjà existants, on va dire un peu plus institutionnels, ne sont pas assez efficaces en fait?
Alors on a un problème en France qui est la montée en puissance de nos systèmes d'alerte. On s'appuie massivement sur les sirènes. Elles ont pu sonner hier pour ceux qui les ont entendues dans beaucoup de villes de France à midi. Ces sirènes malheureusement n'ont pas forcément les tonalités qu'il faudront pour prévenir des risques auxquels nous sommes exposés. Est-ce que c'est un tsunami? Est-ce que c'est un feu? Est-ce qu'il s'agit d'un ouragan qui approche? Bref, il faut que nos systèmes d'alerte soient modernisés. Alors les services de l'État sont très impliqués. On a rencontré énormément de services de l'État, de collectivités qui sont aujourd'hui à l'œuvre, qui travaillent dur à créer et à monter en puissance sur ces systèmes d'alerte, qui seront obligatoires en 2022, auxquels d'ailleurs France Inter contribuera sur le DAB+, et le RDS par exemple. Vous aurez un rôle aussi en tant que radio, pouvoir diffuser ces systèmes d'alerte, mais il faut que d'ici 2022, ces systèmes d'alerte des populations soient mis en place sur la téléphonie mobile, notamment avec l'alerte cellulaire, le cell broadcast qui a été inventé en France à Sophia Antipolis en 1997, et que l'Union européenne va imposer sur l'ensemble du territoire européen. et je l'espère évidemment qu'il sera opérationnel en français et bien sûr dans d'autres langues et d'autres alphabets pour les Jeux Olympiques de 2024.
Mmh. Gaëlle, qu'est-ce que vous allez faire demain pour terminer en Nouvelle-Calédonie alors avec les habitants là-bas de l'île?
Alors, je pars pour un super événement, ça s'appelle Diginova en fait, qui est organisé par le gouvernement néo-calédonien, et c'est l'occasion en fait hein, pour moi de ramener du matériel radio, des câbles, des émetteurs radio, de soutenir les radioamateurs néo-calédoniens et aussi susciter, comme vous le disiez tout à l'heure dans l'émission, enfin dans, avec l'intervenant précédent, ben, des passions. J'ai été très inspiré par des hommes et des femmes hein, qui m'ont passionné pour ces sujets, mais c'est aussi à notre tour, en tant qu'association, à mon tour, de susciter en fait chez de jeunes enfants, jeunes et moins jeunes, ces bons réflexes pour pouvoir faire face aux catastrophes qui pourraient toucher la Nouvelle-Calédonie.
Ben, vous donnez envie en tout cas, Gaëlle, parce que vous en parlez extrêmement bien. Et j'invite tous ceux qui sont intéressés par ce que vous faites à vous rejoindre via le site de l'association. C'est hand.team, hand.team. Évidemment, le site est en lien sur la Terre au Carré. Merci beaucoup, Gaëlle, et bon voyage donc en Nouvelle-Calédonie demain. Et bon courage, parce que le vol est long pour y aller. Hein.
Merci à vous. À
bientôt.
Journée, effectivement.
Merci.
Au revoir.
Bonne fin de journée.
Si, comme Gaëlle, vous avez envie de nous parler de vos idées, de vos projets, si vous avez besoin d'un coup de main également pour faire avancer une initiative, eh bien cet espace est le vôtre. Vous pouvez bien sûr nous contacter comme tous les jours sur la page de l'émission. Bonjour Célia Kiray.
Bonjour Mathieu.
Suite de votre reportage et fin d'ailleurs de cette semaine en Guyane, aujourd'hui on part avec vous au port militaire de Cayenne, là où les navires de la marine française luttent contre la pêche illégale. Des pêcheurs brésiliens et surinamais pêchent en effet régulièrement dans les eaux françaises, ce qui met en danger les ressources de poissons et la pêche française. Il y a donc, vous allez nous l'expliquer, un enjeu économique et environnemental.
Oui, c'est un vrai sujet la pêche illégale en Guyane, car elle épuise les stocks de certains poissons, comme les acoupas rouges, une espèce de barre très recherchée. Et les pêcheurs brésiliens qui viennent dans les eaux françaises ne respectent pas les normes françaises. Ils risquent donc de piéger les tortues marines dont on parlait hier, ou les dauphins au passage de leur filet. Je vous emmène au Dégrade des Cannes, le port où accostent les navires militaires. Il y a notamment deux gros patrouilleurs de la Marine nationale, la Résolue et la Confiance. Allez, on monte à bord, les marins vont tout vous expliquer. Quand je les ai rencontrés, ils venaient tout juste d'arrêter un bateau brésilien, le Progresso. Et vous le verrez, ils s'opposent parfois à de véritables pirates.
Nous sommes sur le fleuve Mahuri, hein, l'océan Atlantique à votre gauche. Je suis le capitaine de frégate Eric Vigou, le commandant de la base navale. Je vous avais déjà présenté tout à l'heure le capitaine de corvette.
Bonjour.
Mathieu
Bonjour.
Kuhn,
enchanté.
Qui est le commandant du patrouilleur la Confiance.
Là, on est sur la...
Le commandement de bord, la Confiance.
Sur la plage arrière de la Confiance. Et donc là, vous pouvez voir nos deux embarcations là, qu'on est capable de mettre à l'eau en moins de 3 minutes pour avoir un effet de fulgurance là, sur les pêcheurs. On a une nouvelle propulsion hybride diesel-électrique. Notre mode privilégié d'action, c'est la nuit. On est très discret et on peut s'approcher en toute discrétion des pêcheurs qu'on cible et les attaquer au moment opportun sans être détecté.
Et voilà. Quand vous dites les attaquer, c'est concrètement c'est...
Les prendre. On va mettre en œuvre nos deux embarcations rapides avec notre équipe de visite. Et s'ils sont dans l'illégalité, on va les dérouter.
Qu'est-ce que vous saisissez ?
Ça peut être un rejet de la pêche à la mer, ça peut être une saisie du bateau, une saisie des filets, une saisie de l'équipement en fonction de ce qu'on nous demandera de faire au vu de ce qu'on aura constaté à bord. À chaque instant, il y a des pêcheurs qui essayent de rentrer et de continuer à pratiquer la pêche illégale dans nos eaux.
Et en général, les opérations se passent bien ou il peut y avoir aussi des altercations ou ça résiste ?
On fait tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien, mais on sait par habitude que les pêcheurs brésiliens sont plutôt opposés aux visites. Si on voit qu'on a une trop forte opposition ou que le rapport de force n'est pas favorable, on n'ira pas engager la vie ou la sécurité de marins juste pour du poisson. Donc on s'est fixé des limites. Donc ici on est dans l'infirmerie, c'est vraiment extra parce que du coup si jamais on va dans des opérations qui se déroulent où on peut avoir des problèmes, et bien, du coup on est capable de prendre en charge rapidement rapidement le blessé. Ça peut arriver.
Mais il y a de la violence ou pas avec ces pêcheurs illégaux ?
Ah ben oui, il y a de la violence. Il y a des fois on ne peut pas faire l'intervention parce qu'ils sont trop violents. Quand il y a des fois, on est obligé de les raccompagner à la frontière en leur faisant couper leur filet, en essayant de leur faire perdre du temps, de leur faire perdre de l'argent et en récupérant les filets. Par exemple, s'ils se regroupent à 5-6 tapouilles et qui sont ultra violents, et ben du coup, on n'ira pas dessus. Ils sont armés de tout ce qu'ils ont. Ils ont tout ce qu'ils peuvent trouver à bord, quoi. Tout ce qu'ils peuvent trouver à bord, ils peuvent s'en servir potentiellement.
La salle de rétention, donc ici c'est
On appelle ça la salle modulaire. C'est pareil, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Et donc, si jamais on est amené à faire des mesures restrictives et privatives de liberté, là, on se retrouve en passerelle, donc le centre névralgique du bateau, l'endroit où tout se passe et où une majorité des actions se décident.
Ça, c'est un bateau qui a été arrêté.
Oui, donc là, vous avez les navires de pêche brésiliens, là, qu'on appelle les tapouilles ici. Donc celui-là, il a été pris hier, puis il est arrivé sur la base dans la soirée, là. Alors moi je suis le capitaine de vaisseau Stéphane Faury, je suis le commandant de la zone maritime. Dès qu'on monte sur un navire de pêche, après on passe dans une phase d'abord administrative. Donc c'est la direction de la mer qui va ordonner le déroutement si les preuves suffisantes ont été recueillies. Donc la direction de la mer et l'équipage est pris en compte par des officiers de police judiciaire, de la gendarmerie maritime, qui eux travaillent sous l'autorité du procureur. Et là, il y a la procédure qui est en cours. Et le plus souvent, ces navires, après, sont détruits parce que, comme ils étaient en pêche illégale, il y a une vraie efficacité avec des pêcheurs qui, désormais, hésitent à rentrer et rentrent sur de petites distances. Donc, on voit qu'il y a quand même un vrai progrès.
Je m'appelle Michel Nalovic. Je suis ingénieur halieutique au comité régional des pêches de la Guyane. On serait dans une situation de déclin de la pêche illégale. Nous avons vu des montées en puissance et des baisses en fonction des efforts de l'État pour combattre ce fléau.
Nicolas Apché, aujourd'hui, le pêcheur illégal, il vient, il vous bloque la ressource. Il vous menace de mort. Le marin, l'équipage qui lui est en mer, vit sous la menace des fusils, vit sous la menace des sabres ou de l'abordement, du sabordage. Ce sont des pirates que vous avez à l'extérieur. Aujourd'hui, l'État français doit faire respecter sa souveraineté. Je le dis haut et fort, ça nous porte préjudice, de forts préjudices.
Le problème aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve avec des crevettes qui viennent du Brésil ou de Madagascar ou d'Indonésie, où ils n'ont fait aucun effort pour la préservation des espèces, qui concurrencent directement la crevette de Guyane, et ça fait mal.
Alors, est-ce que ces efforts sont efficaces, Célia ?
Oui, selon la direction de la mer en Guyane, la présence de ces bateaux brésiliens, les tapouilles, comme on l'entendait, a diminué de près de 25% en 2-3 ans. Les contrôles sont donc utiles. Mais il y a un trafic d'un genre nouveau qui mine la Guyane en ce moment. Connaissez-vous les vessies natatoires, Mathieu ?
Oui, c'est ce qui permet aux poissons de rester en surface. Hein.
Exactement, c'est ce qui leur permet de flotter. Et les Chinois en raffolent pour leur vertu aphrodisiaque. Ils les réduisent en poudre et les mettent dans des soupes, des boissons. Résultat, une pêche très agressive qui se développe en ce moment en Guyane. Pour revendre à prix d'or ces vessies, c'est la nouvelle cocaïne des mers. Les marins ne sont pas au bout de leur peine.
L'intégralité de vos reportages en Guyane est à réécouter, Célia, sur franceinter.fr, sur la page de la Terre au Carré. Merci beaucoup.
Merci à vous.
À bientôt. Dans un instant, notre invité découverte, Julien Vidal, va nous raconter l'expérience qu'il a menée pendant un an en testant chaque jour un geste éco-citoyen. C'est l'objet d'un livre et c'est l'invité découverte. All right.
I wanna tell you a story every man ought to know. If you want a little loving, you gotta start real slow. She's gonna love you tonight now, if you just treat her right now. Oh, squeeze her real gentle, gotta make her feel good. Tell her that you love her like you know you should. 'Cause if you don't treat her right, she won't love you tonight. If you practice my method just as hard as you can, you're gonna get a reputation as a loving man. And you'll be glad every night that you treated her right.
Treat her right, c'était Roy Head.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Dis donc, Elliot, tu comptais nous en parler quand ce concours là?
C'est quoi, Denis?
C'est un concours d'écologie au collège. Ça a commencé depuis deux jours, mais apparemment, monsieur s'en fout.
Bah, Elliot!
Quoi?
Bah, c'est pourquoi tu nous en as pas parlé? C'est super, tu vois.
Je m'en fous de l'écologie.
Comment ça, tu t'en fous de l'écologie, dis donc, hey.
Je suis climato-sceptique.
Elliot, on va le faire, ce concours, évidemment.
Oui, exactement qu'on va le faire. Parce que chez nous, l'écologie, c'est une seconde nature.
Ouais, enfin, quand ça vous arrange.
Quoi? Et mon potager bio, alors?
Franchement, tu l'as bien regardé, ton potager.
Et c'est pas moi qui dis de couper l'eau tout le temps quand tu te brosses les dents?
Ouais, et tu prends un mot par jour.
Moi, je travaille, hein, et j'en ai besoin pour décompresser.
Ouais.
Bonjour Julien Vidal.
Bonjour.
Bienvenue dans La Terre au Carré, vous avez fondé le mouvement Ça commence par moi, et donc vous publiez ce livre qui porte le même titre aux éditions Point. Et justement, il y a quand même une phrase en sous-titre, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde.
Soyons le
Soyons,
changement,
pardon, bien sûr. C'est une phrase de Gandhi. Hein.
Ouais, c'est plus rassembleur, c'est plus incarné.
Ça vous a inspiré cette phrase?
Ben, disons que j'ai été tellement l'empêcheur de tourner en rond, l'écolo relou de la famille qui disait aux autres ce qu'il devait dire, ce qu'il devait faire et qu'il ne faisait absolument pas ce qu'il prenait justement autour de lui.
Ah, vous avez été comme ça?
Oui, qu'à un moment je me suis dit peut-être que là, 25 ans d'échec, il était temps de changer, ouais, c'est ça. Ouais.
Bon, sauf que vous avez voyagé aussi pas mal.
Bah, c'est ça.
Hein, oui, et ça vous a beaucoup influencé?
J'ai eu l'occasion de voir tous les dérèglements de notre monde occidentalisé, de surconsommation, du droit du travail libéralisé et de ses dérives. En Colombie, pendant deux ans, j'accompagnais des micro-entrepreneurs et je les voyais faire nos bidules vendus des dizaines et des centaines d'euros à l'autre bout de la planète. Et je voyais à quel point eux, ils gagnaient même pas 10 euros tous les jours, à quel point ils avaient leurs enfants qui venaient leur filer un coup de main à la fin de la journée après les devoirs. Et c'est pas soutenable, en fait. C'est des inégalités économiques et sociales qui sont terribles. Et juste après, les Philippines, c'était après le typhon Haiyan à l'époque, qui avait fait plus de 8000 morts. Et de me rendre compte que non seulement ces inégalités économiques et sociales, elles sont terribles, mais qu'en plus, elles sont accentuées de plus en plus par les catastrophes climatiques. Disons que quand je suis rentré en France, je me suis senti le devoir, effectivement, d'essayer d'agir du mieux que je pouvais et d'arrêter de rester un peu dans cette posture qui ne faisait pas avancer grand-chose.
Alors l'idée, c'est qu'on a tous et toutes des solutions, en fait, hein, en réalité, pour pouvoir agir et changer les choses dans notre quotidien. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce petit détail, Camille, de notre invité Julien Vidal, c'est le mouchoir en tissu.
Ah non, je n'ai pas vu.
Ça y est, le mouchoir en tissu, bah, il a sorti tout à l'heure.
Ah
voyez.
Oui, ça c'est...
Ça revient à la mode. Père.
Oui, ça revient à la mode.
C'est ça, il faut arrêter d'utiliser Kleenex.
Mais il faut les laver souvent, alors du coup, est-ce que c'est pas contre-productif finalement?
C'est jamais parfait, ça c'est sûr.
Ah, c'est ça.
Alors c'est quoi l'idée de départ? C'était de pouvoir tester chaque jour, c'était un challenge quasiment que vous étiez donné?
C'était pour moi, bien sûr, un challenge de me dire, allez, allons-y. Mais d'un autre côté aussi, de me dire, ces petits gestes, on parle toujours des petits gestes écolos, des gestes individuels, et on sent bien que c'est quand même une belle manière, d'une certaine manière, de regarder ailleurs, de faire la petite action déculpabilisante, de continuer à faire tourner la grande roue de la consommation. J'avais envie d'aller plus loin et de montrer qu'on pouvait mélanger et gestes individuels et gestes collectifs, qu'on pouvait agir, réduire, créer, régénérer, refuser. Et tout ça, c'était au moins l'occasion de tester 365 actions sur le site ça-commence-par-moi.org. En fait, j'ai raconté cette expérience tous les jours.
Et sans être relou, vous avez dit tout à l'heure, j'étais l'écolo relou de la famille, il y a quand même un côté, pardon, relou, à lourd pour les autres, à faire tous ces gestes ou pas, ou finalement c'est assez facile?
Pas du tout. En fait, si on part en liant dès le début la notion de bonheur à ce changement, puisque on peut très bien commencer par les choses qui nous passionnent, dans lesquelles
c'est l'écologie heureuse, on en parlait avec
Camille. C'est ça, l'écologie souriante.
C'est pas l'écologie du renoncement, j'en ai marre d'entendre qu'il faut effectivement renoncer, porter une pierre, le sacrifice, comme si on devait en fait perdre en qualité de vie, mais c'est notre vie actuelle à laquelle on doit renoncer, ces files d'attente sur l'autoroute, à la caisse, c'est cette nourriture infâme qu'on mange et qu'on met dans nos caddies, ces voitures qu'on achète et qui nous prennent des années à rembourser. Ça, je veux bien y renoncer, mais en fait tout le reste, c'est un mode de vie qui est tellement plus sain, tellement plus heureux, tellement plus joyeux, tellement plus en lien avec le vivant dans sa globalité, ça fait du bien.
Donc nous avons un homme joyeux et heureux à ce micro.
Vraiment, j'ai jamais eu le sentiment d'être autant à ma place que depuis que je me suis mis à la sauce, ça commence par moi. Ouais.
Alors, il y a plein de sélections dans le livre. Chaque mois, Camille, vous
avez,
par exemple, alors voilà, la sélection des bonnes pratiques du mois de septembre. Je me fournis en électricité verte. Ça, c'est pour commencer. C'est pas mal,
ça. Mais comment on fait pour se fournir en électricité verte?
C'est la fameuse électricité verte. Alors, le terme électricité verte, il est pas mal questionné parce que, en fait, l'électricité la plus verte, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc, déjà, il faut considérablement réduire sa facture d'énergie. Mais ensuite, il y a d'électricité qui est produite par des sources durables en France dans des coopératives comme la Enercoop par exemple. Il y a aussi Énergie d'ici, ILEC, qui sont des alternatives autrement plus vertueuses que les grands groupes qui en fait
surfent sur la vague sur sans la le faire vague. Véritablement.
Ils achètent des bons d'électricité verte sur un marché un peu opaque, ils le collent ça sur leur électricité en disant oui, c'est bon, tout va bien. Alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas.
Ouais. Est-ce que vous avez téléchargé, Camille, l'application Le Guide du Tri sur votre smartphone?
Mais pas du tout.
Vous allez le faire en sortant de studio, je peux vous dire.
Mais je sais très bien trier par moi-même.
Voilà. Il faut recycler les bouchons en liège dans les points de collecte dédiés en septembre, par exemple. Il faut donner les bouchons en plastique à l'association Bouchons d'Amour. Il faut composter, évidemment, ces déchets organiques. Il faut regarder le documentaire Demain de Mélanie Laurent et Cyril Dion. Et il faut lire Pierre Rabhi.
Voilà. Attention, Mathieu. Moi, je me permets quand même de dire, c'est pas il faut, c'est vous pouvez, vous avez l'opportunité de, puisqu'en fait, l'idée, c'est d'avoir 365 portes qui sont autant des portes d'entrée vers cette action éco-citoyenne. Et la perfection, elle n'existe pas. Mmh. Si on doit juste se dire, j'ai une nouvelle to-do list face à moi que je dois cocher.
C'est désespérant. Et je dois être...
Mais en fait, c'est on regarde c'est en permanence une montagne sans fin qu'on doit gravir. Donc forcément, ça.
Mais est-ce que vous regardez tout? Par exemple, je vois votre t-shirt, votre sweatshirt. Est-ce que vous avez regardé les étiquettes, choisi un produit qui était...
C'est qu'on se pose des questions. On arrête de faire comme on a eu l'habitude de faire, comme nos amis nous ont dit qu'il fallait faire. On se pose des questions. On a peur au début. On a l'impression que c'est une tâche incommensurable, alors qu'en fait, ça devient un plaisir de comprendre ce qui se passe derrière notre mode de vie et de se l'approprier vraiment. Donc, ce t-shirt que vous pointez du doigt, Mathieu, c'est un t-shirt qui vient de la marque 1083, qui a été fabriqué en France, avec du coton bio, etc., etc. Ma veste, par contre, elle a 15 ans et je l'ai achetée dans un grand groupe qui, aujourd'hui, a 5 milliards d'invendus sur les bras.
Mais vous achetez des objets d'occasion pour équiper la maison, par
exemple. En fait, il y en a dans tous les secteurs, dans la maison, dans le travail. Il y a même l'écologie spirituelle, l'écologie intérieure dont on parle assez peu, puisque souvent on pense à la consommation. Il faut tout peinturlurer en vert, notre étagère, nos vêtements, etc. Mais il y a aussi la question de qui on est vraiment, quels sont nos talents,
et ça passe
qu'est-ce
par
qui
quoi,
nous rend heureux. La méditation, le travail de Satish Kumar.
Mais là, vous allez. Pardon, mais il y a des auditeurs, ils vous écoutent, ils vont justement dire mais qu'est-ce qui m'agace celui-là? C'est trop, en fait.
J'adore les gens qui me disent ça, mais bien sûr.
Vous leur répondez quoi alors?
Moi, je leur dis mais regardez, je vous dis
ça,
juste
ça devient cliché ou caricatural presque.
Je m'y suis mis en ayant envie de changer et que c'est devenu un jeu et que j'y ai pris un plaisir fou. Ne commencez pas à tout faire maintenant. Vous voulez faire courir quelqu'un un marathon dès demain?
Ah ben, vous pouvez en parler à Camille qui est marathonienne, justement.
Et ben voilà, mais vous le savez mieux que moi. Quelqu'un qui a jamais fait de sport, dès demain, il court son marathon, il va se blesser, il va jeter ses chaussures à la poubelle et il va dire plus jamais pour moi. L'idée, c'est tous les jours de mettre en place une nouvelle action qui nous permet de construire un parcours éco-citoyen ambitieux et durable.
Alors, Julien Vidal, est-ce que ça fait faire vraiment des économies? Vous avez pu l'estimer, ça, dans votre budget?
En tous ces petits gestes, mode de vie, effectivement, j'ai cumulé au moins 300 euros d'économies par mois. C'est ça qui est extraordinaire. On crée un cercle vertueux. Économie d'argent, économie de temps. Il y a plein de choses qu'on arrête de faire parce que finalement, ça nous apporte pas grand chose.
Quoi, par exemple?
Le fait d'aller faire des courses tous les trois jours parce que on n'est pas organisé, parce que on passe à côté du magasin. Là, aujourd'hui, je suis au supermarché coopératif de la Louve, qui est un supermarché coopératif dans le nord de Paris. Je fais mes courses une fois par mois. Puis ensuite, de temps en temps, un petit réapprovisionnement de légumes
si vélo,
au circuit court. C'est juste à côté de chez moi. Ouais. Il y a plein de choses comme ça qu'on arrête de faire. Et puis en plus, on a des objets de meilleure qualité, on est en meilleure santé. Enfin, c'est vraiment un circuit vertueux. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, je pointe du doigt l'écologie du renoncement, parce que moi, j'ai dit oui à plein de choses, au contraire, plutôt que de renoncer, parce qu'on parle beaucoup de il faut arrêter de manger de la viande, il faut arrêter de prendre l'avion. Ben non, il faut se mettre à... On peut découvrir enfin la France à côté de chez nous, se relier à la nature. Non, j'avoue que ça fait 10 ans que j'ai arrêté de manger de la viande.
Oui, alors donc, évidemment, prendre le train plutôt que l'avion, ça c'est sûr. Essayer d'aller à l'étranger moins souvent, mais enfin, tout ça, c'est quand même des trucs de riches aussi, quand même, non?
Oui. Mais bien sûr. Mais ça tombe bien, puisque ce sont nous, les riches, qui orientons la société et qui donnons envie de consommer toujours
les
plus.
Les premiers de cordée, non?
C'est en tout cas, je ne sais pas si je me classe dans les riches, puisqu'à l'époque où j'ai fait cette aventure, j'étais en dessous du salaire médian, mais toujours est-il que je pouvais me permettre de me poser ce genre de questions. Et c'est normal que ce sont ceux qui ont le plus grand pouvoir d'achat qui doivent d'abord faire ces efforts.
Il y a l'idée de consomme-acteur aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion?
L'idée de consommer différemment, parce qu'il y a tout un tas d'entreprises climaticides qui aujourd'hui ne payent pas leurs impôts, impôts, qui exploitent les ressources, et on ne devrait plus leur donner notre argent. Allez voir la campagne de High Boycott, qui est absolument un modèle sur ce genre de choses. Mais il y a aussi l'idée d'être acteur tout court, parce que dans Consommateur, on reste dans notre rôle de porte-monnaie sur pattes. Et en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire sans sortir sa carte bleue.
La forêt amazonienne, là, qui est en train de brûler, là aussi, on a un pouvoir, nous, en tant que consommateurs, justement.
On a un pouvoir sur tout, en fait. Alors oui, effectivement, moi, j'ai divisé par 6 mon empreinte carbone. Aujourd'hui, je suis en dessous de 2 tonnes de CO2. Bon, ben là...
Vous arrivez à la mesurer, pardon ?
Oui, il y a un test qui se fait sur le Footprint Calculator. Je suis désolé, c'est en anglais, mais c'est le test aujourd'hui en français. Footprint Calculator.
On va faire un sujet dans l'émission très bientôt. Ouais,
mais en fait, tous nos actes pèsent. C'est infime, mais c'est nécessaire. Et en plus, ça pèse sur d'autres entités qui doivent être aussi réorientées, le politique, l'économique. Et ça, c'est important d'agir à toutes les échelles.
Voilà, ça commence par moi. Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Et puis, c'est un site internet, c'est une association également, un .org, ouais. Vous l'avez dit tout à l'heure, dont vous êtes le président, Julien Vidal. Merci beaucoup d'être venu, vous et votre mouchoir en tissu.
Est-ce qu'il vous arrive quand même de faire des gestes pas écolos là, ces derniers temps?
Allez, le dernier. Par
toutes
exemple,
les occasions de faire des gestes pas écolo. Tout à l'heure, en attendant cette interview, j'ai demandé un Perrier, j'ai oublié de demander de ne pas mettre la paille en plastique. Je me suis retrouvé avec une paille en plastique, vous imaginez.
Et ça va bien se passer.
Oui, je vais rentrer chez moi et me flageller avec.
Merci Julien Vidal, c'est terminé pour cette Tête au Carré. La rédaction en chef était signée Denis Delbecq. Terre au Carré, bien sûr.